Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors pourquoi je vous parle d'informatique aujourd'hui et pas plus généralement de toutes les sciences exactes ou même de toutes les sciences? Alors d'une part parce que l'informatique c'est une des sciences les plus genrées et les équilibres de genre sont les plus importants. Et d'autre part parce que la place des femmes en informatique a beaucoup changé au cours de la brève histoire de cette science. Alors on peut faire remonter les débuts de l'informatique à 1944, l'apparition des premiers calculateurs programmables, ou 1936, la publication des articles fondateurs de Turing et de Church. Donc ça veut dire 80 à 88 ans d'histoire. C'est bien peu par rapport aux 2 millénaires et demi d'histoire des mathématiques. Et cela rend d'autant plus visible la masculinisation massive de la discipline qui s'est produite dans les années 1980 et qui a, d'une certaine manière, invisibilisé les nombreuses contributions des femmes à la programmation des ordinateurs, aux appels logiciels en général, pendant les 40 premières années de la discipline. Mais commençons par un état de la situation en France aujourd'hui. Donc voici un diagramme qui est tiré d'un rapport récent de l'Académie des sciences et qui montre la proportion de femmes dans les enseignants-chercheurs en sciences dans les universités françaises, groupées par discipline. Donc l'informatique est dans le groupe 5 avec les mathématiques et vous voyez donc une proportion d'un petit peu plus de 20% qui est stable sur les 10 dernières années. C'est très comparable à ce qui se passe en physique. Il n'y a guère que les sciences de l'ingénieur pour être un peu plus genrées. Et à l'autre bout du spectre, vous avez la biologie où la part des femmes augmente nettement et approche maintenant les 50%. Ça c'est le même diagramme mais séparé entre d'un côté maître de conférence, maîtresse de conférence, donc les postes d'entrée de carrière, et postes de professeur, donc les postes plus seniors. Alors dans toutes les disciplines vous voyez une proportion plus faible de femmes chez les seniors, donc ça peut être le signe de phénomène de plafond de verre ou de plancher collant. C'est-à-dire que les femmes rencontrent plus de difficultés à accéder au poste senior, où ça leur prend plus de temps. Et alors pour ce qui est de mathématiques et informatique, donc en revanche, les taux sont tout à fait constants, progressent très peu, alors que dans d'autres disciplines, notamment sciences de l'univers, chimie et biologie, on voit que le taux des femmes chez les professeurs augmente assez rapidement. Alors, regardons maintenant ce qui se passe dans les organismes nationaux de recherche. Donc ça, c'est l'INRIA, qui est spécialisé en informatique et mathématiques appliquées, donc vraiment dans le cœur du métier. On voit une proportion de 20% de femmes dans les emplois scientifiques, donc 17% au niveau senior, directeur de recherche, 19% au niveau junior, chargé de recherche, et 23% chez les doctorants et post-doctorants. Donc une proportion assez faible, mais sans plafond de verre évident. Et on retrouve à peu près les mêmes chiffres au CNRS. Alors le CNRS est hautement pluridisciplinaire, donc les chiffres varient beaucoup suivant les sections disciplinaires. L'informatique, c'est les sections 6 et 7 que vous voyez ici, avec donc une proportion de femmes de 20%, à peu près la même chez les directeurs de recherche, qui sont les ronds, et chez les chargés de recherche, qui sont les carrés. Et il n'y a guère que quelques sections de physique, ici de 3 à 4 pour faire pire. En revanche, si vous regardez en bas du diagramme, vous avez les sections de sciences de la vie et à gauche, vous avez les sections de sciences humaines et sociales. Donc vous voyez des proportions beaucoup plus importantes de femmes chez les chargés de recherche, mais aussi des écarts entre chargés de recherche et directeurs de recherche plus importants. Alors maintenant, on va regarder le vivier des étudiantes du supérieur en France. D'accord, c'est le vivier dans lequel on va puiser les emplois scientifiques de demain, que ce soit dans l'industrie ou dans le monde académique. Alors j'ai horreur de ce terme vivier, parce que ça me fait penser à des poissons d'élevage, alors qu'on parle quand même d'êtres humains ici, derrière tous ces chiffres. Mais bon, allons pour le vivier. Donc là, on a quelques chiffres récents qui proviennent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On voit que les femmes sont majoritaires dans les études supérieures, maintenant 56,8% et en augmentation sur les 10 dernières années. Et c'est le cas dans les facultés de lettres, de droit et de médecine. Et dans les facultés de sciences, la part des femmes dépasse maintenant 40%. Stagne vers 40% dans les classes préparatoires aux grandes écoles et atteint 30% dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est des chiffres qui sont plutôt rassurants et plutôt encourageants, je m'attendais à pire, mais qui cachent de grandes diversités entre les disciplines. Alors trouver des chiffres spécifiquement pour l'informatique, c'est étonnamment difficile, donc j'ai pas eu beaucoup de succès. Donc là j'en ai trouvé qui datent d'il y a 10 à 15 ans, donc à prendre avec un grain de sel. Et on y voit déjà à l'époque une proportion d'environ 30% de femmes dans les classes préparatoires aux grandes écoles et scientifiques, un peu moins en école d'ingénieurs. Mais si on se focalise sur les écoles d'ingénieurs spécialisées en informatique, NCMAG, NCIE, on tombe à 12%, jusqu'à 7% dans les écoles du groupe Epitech. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les filières universitaires informatiques font pire, enfin sont quelquefois en dessous de 10%, que ce soit les filières longues, licence master, ou les filières courtes, IUT, STS. Au total, donc le chiffre le plus récent que j'ai trouvé, c'est environ 16% d'étudiantes en informatique en France, en licence et master, et 20% en doctorat. Et si on regarde donc d'autres deux grands pays réputés pour leur formation en informatique, c'est 23% au Royaume-Uni et 25% aux États-Unis. Donc que ce soit 16%, 23%, 25%, ça reste un fort déséquilibre des genres dans les études d'informatique et qui ne donne aucun signe de se résorber. Non, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. L'afflux massif des femmes dans les études supérieures et les professions intellectuelles dans les années 70 a profité à l'informatique comme aux autres sciences et comme à la médecine et comme au droit. Et comme on le voit sur ce graphique, donc ça c'est les chiffres en provenance des États-Unis, la proportion de femmes diplômées en informatique, computer science, CS, aux États-Unis, donc a fortement augmenté tout au long des années 70 pour culminer à 37% en 1984. Et même chose pour le métier de programmeur informatique, développeur de logiciels, où les femmes étaient historiquement bien présentes dès les premières années de l'informatique. Et c'est seulement vers la fin des années 80, donc au milieu des années 80, que les femmes sont moins présentes dans les études d'informatique, et à partir des années 90, on les voit moins dans les métiers comme programmeurs. Alors, voyons un peu ce qui s'est passé dans les premières années, premières décennies de l'informatique. Alors, les informaticiens aiment bien remonter jusqu'à 1942, date à laquelle une femme, Ada Lovelace, a écrit le premier programme informatique. Alors c'est un programme pour une machine, la machine analytique de Charles Babbage, un calculateur mécanique programmable par carte perforée qui n'a jamais été construit, donc le programme n'a jamais tourné. Donc les travaux de Babbage et Lovelace n'ont eu aucun impact, mais au début du XXe siècle, l'utilisation des calculatrices mécaniques non programmables se répand. Par exemple pour le dépouillement des recensements ou le calcul de table actuariale. Et ici vous voyez à quoi ressemble une salle de calcul en 1920. Donc ce sont des dizaines de femmes, les calculatrices, qui enchaînent les opérations arithmétiques à l'aide de leur machine à calculer mécanique à longueur de journée. Et vous voyez que le métier est presque exclusivement féminin. Le seul homme sur cette image, c'est l'espèce de surveillant là, qui est debout. Et alors, les uns disent que des qualités féminines font merveille dans ce métier, comme la méticulosité ou la patience. Et d'autres, plus matérialistes, qu'il s'agit d'un de ces emplois de bureau qualifiés, peu considérés, mal payés et sans perspective de carrière, que les femmes ont trouvé en arrivant sur le marché du travail au XXe siècle. Et lorsqu'apparaissent les premiers calculateurs programmables, les premiers ordinateurs modernes, c'est tout naturellement que leur programmation est assurée par des femmes. Ici, vous avez l'ENIAC, le premier supercalculateur électronique, vers 1946. Alors, tout le monde sait qu'il a été conçu par Mauchly, Eckert et le génial von Neumann, trois universitaires, hommes bien connus. Mais on a vite oublié qu'il était programmé par une équipe de six femmes, connues comme les ENIAC Girls, les filles de l'ENIAC. Alors, programmer cette machine, c'était pas une mince affaire. Comme vous le voyez, il fallait le recâbler de A jusqu'à Z pour chaque nouveau programme. Et en fait, il a fallu attendre les années 90 pour que l'on retrouve les noms de ces six femmes et que l'on reconnaisse leur travail. Et dès cette époque, on voit se dessiner une division genrée du travail chez les informaticiens. Les hommes conçoivent les ordinateurs, les femmes développent les programmes. Alors on pourrait dire que le matériel est bleu et le logiciel est rose, ou bien que le matériel vient de Mars et le logiciel vient de Vénus, pour reprendre le titre d'un livre de psychologie populaire qui a fait beaucoup pour renforcer les clichés genrés. Quoi qu'il en soit, de nombreuses pionnières en informatique ont travaillé spécifiquement sur les langages et les outils de programmation. Alors, la plus connue, c'est sans doute le contre-amiral Grace Hopper, docteur en mathématiques, professeur à Vassar College, au moment où les États-Unis rentrent dans la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'engage dans la marine et elle est affectée à un projet de calculateur électromécanique, le Harvard Mark I. Et c'est là qu'elle réalise l'immense potentiel de l'ordinateur, pas juste pour l'armée, mais aussi pour les entreprises. Et rendue à la vie civile, elle décide de ne pas retourner enseigner à Vassar et part dans l'industrie naissance de l'informatique, où elle fera un certain nombre de contributions. Puis au bout d'un moment, elle retourne dans la Navy, où elle finira comme contre-amiral, le plus haut grade en temps de paix. Et après sa retraite, donc tout en continuant à conseiller la Navy, elle donnera de très nombreuses conférences, toujours impeccablement sanglée dans son grand uniforme d'amiral, distillant les anecdotes telles la mamie de choc de l'informatique. Et alors, sa contribution majeure, c'est l'invention du compilateur, l'idée que le code machine qui s'exécute n'est pas forcément écrit à la main, mais peut être engendré par un programme, à partir d'un langage de plus haut niveau. Le programme, c'est le compilateur. Alors, c'est une approche qui est maintenant universellement adoptée, mais en 1952, comme elle le dit ici, quand elle montrait son prototype de compilateur, on lui expliquait que c'était pas possible, les ordinateurs ne pouvaient que calculer avec des nombres, pas manipuler des programmes. Enfin, voyons, ma petite... Et alors, elle est aussi souvent mentionnée comme l'auteur du langage COBOL, le deuxième grand langage de programmation après moderne, après Fortran, et langage qui a beaucoup fait pour l'informatisation des entreprises et des banques. En fait, c'est pas vrai. Le COBOL a été conçu par un comité à partir de plusieurs prototypes, dont celui de Grace Hopper. Mais ce comité de standardisation était composé très majoritairement de femmes, en fait, qui, je crois, ne s'est plus jamais reproduit dans l'histoire de l'informatique ensuite. Alors, quelques autres pionnières en langage et outils de programmation, Frances Allen, Barbara Liskov, les deux premières femmes à avoir reçu le prix Turing, l'équivalent du prix Nobel en informatique, respectivement en 2007 et 2008. Donc, Frances Allen cherche aussi chez IBM, qui a développé le cadre général de la compilation optimisante et de la parallélisation automatique de programmes. Et Barbara Liskov, un professeur au MIT, qui a inventé la notion d'abstraction de type et développé le langage expérimental Clue. Et alors, j'aime beaucoup comment Frances Allen raconte comment elle est entrée chez IBM. En fait, elle avait fait un master en mathématiques et elle était criblée de dettes étudiantes. Et pour rembourser ses dettes, elle s'était dit « je vais aller travailler quelques années chez IBM et puis après j'irai enseigner ». Et en entrant chez IBM, on lui a naturellement proposé un emploi de programmeur. Car « it was something that women were believed to be good at ». On savait bien que les femmes étaient douées pour la programmation. Et elle finira par faire toute sa carrière chez IBM. Alors, autre figure haute en couleur. À gauche, vous avez Mary Kenneth Keller, sœur de la Charité de la Sainte Vierge Marie, ordre catholique d'origine irlandaise, qui a contribué à la conception et à l'implémentation du langage BASIC, le premier langage spécialement conçu pour l'apprentissage de la programmation, et qui aura un immense succès dans les années 80 et 90 pour l'initiation à l'informatique. Et Sœur Marie est aussi célèbre pour être la première personne à avoir reçu un PhD in Computer Science, donc un doctorat d'une université américaine marqué explicitement informatique, et non pas mathématiques ou physique, etc. Et ce, en 1962. Et à droite, vous avez Margaret Hamilton, la géniale programmeuse qui a développé au MIT, pour le compte de la NASA, le logiciel de contrôle de vol des modules lunaires des missions Apollo, celles qui ont posé les premiers astronautes sur la Lune. Alors, on la voit ici avec le listing de son code, qui a fait à peu près sa hauteur. Et son code, c'était un chef-d'œuvre de programmation défensive et résistante aux pannes, dans lequel le module Apollo 11 se serait écrasé sur la Lune. Voilà. Et alors, elle est aussi connue pour avoir introduit le terme de génie logiciel, software engineering, qui est maintenant un pan entier des sciences informatiques. Mais à l'époque, ça a fait un peu ricaner aussi. On trouvait que c'était une blague. Oh, c'est bien prétentieux, cette notion de génie logiciel, ma petite. Et pour finir, deux pionnières françaises. À gauche, vous avez Alice Rocock, qui a récemment fait l'objet d'une jolie biographie par Marion Carré. Donc diplômée de l'ESPCI en 1954 en physique et électronique, c'était une des rares grandes écoles françaises à accepter les filles à l'époque, elle choisit en sortant d'aller travailler dans une start-up en informatique, la Société d'électronique et d'automatisme, qui finira dans le giron du groupe Bull. Alors il y a deux anachronismes ici, d'abord start-up, et puis ensuite même le mot informatique n'existait pas en 1954. Et alors, elle a participé à la conception de deux mini-ordinateurs qui ont marqué leur époque, CAP 500 et Mitra 15, et elle s'était aussi beaucoup intéressée aux enjeux sociétaux et juridiques de l'informatique. Elle a poussé pour la création de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et à droite, vous avez Marion Créange, qui a été la première personne à soutenir une thèse de doctorat en informatique en France, en 1961, à Nancy. Un an avant Sœur Marie aux États-Unis, et la même année que 8 ou 9 hommes, mais c'était elle la première. Alors, c'était un doctorat de troisième cycle en mathématiques, spécialité, traitement de l'information. Et contrairement à Sœur Marie, elle a ensuite fait une longue et fructueuse carrière de recherche au sein du laboratoire d'informatique de l'Université de Nancy, qui s'appelle le Lauria aujourd'hui, notamment sur l'indexation à la recherche d'images. Et alors en bas, je vous cite ce qu'une camarade de l'ESPCI avait dit à Alice Raycock en 1954. « Viens à la SEA, c'est intéressant, on fait des trucs nouveaux, ils ne sont pas anti-femmes et on est bien payés. » Voilà d'excellentes raisons pour faire carrière dans l'informatique encore aujourd'hui. Donc, pour récapituler un peu la situation en 1980, donc la situation de l'informatique comme science et comme métier, on peut dire que c'est un milieu qui est encore relativement ouvert aux femmes. Il y a cette tradition que les femmes sont douées pour programmer. Le domaine est peu connu du grand public, peu enseigné, ce qui veut dire peu entaché de préjugés encore. Il se prête à des choix de carrière tardifs, à la sortie des études supérieures, voire plus tard, et aux rencontres fortuites avec un domaine dont on n'avait jamais entendu parler. Et les grandes entreprises américaines du domaine jouent complètement ce jeu de l'ouverture. IBM, qui établit un quasi-monopole dans les années 70, recrute largement des profils intéressants, mais sans expérience en informatique, quitte à les former ensuite en interne et tout le long de leur carrière. Et de même, les laboratoires de recherche d'IBM, mais aussi de Bell Labs, de Xerox et d'autres, sont des lieux à la pointe de la science informatique qui restent assez ouverts aux femmes. Le milieu académique, lui, par contre, commence déjà à se fermer aux femmes. Il y avait eu quelques ouvertures pour des carrières atypiques, absence de doctorat, début de carrière dans l'industrie, mais en fait, les départements d'informatique essayent de se respectabiliser et pour ça, de ressembler le plus possible aux départements de mathématiques et de physique, dont sont issus la plupart de leurs enseignants, et lesquels départements sont des gentlemen's club, d'accord, sont très genrés eux-mêmes. Et oui, comme je le disais, les parcours atypiques sont de moins en moins acceptés. Et aujourd'hui, pour être professeur informatique aux États-Unis, il faut avoir fait sa thèse dans une des 10 bonnes universités américaines. Et pour être enseignant-chercheur en France, il faut cocher beaucoup de cases. Postdoctorat, à l'étranger, publication, mobilité, etc. Et un problème de ces normes, de ces critères d'excellence a posteriori, c'est qu'ils sont généralement défavorables aux minorités. Et les femmes sont une minorité en informatique. Alors, parlons maintenant du tournant des années 80. C'est là que la perception de l'informatique, notamment au sein du grand public, change, et ceci en raison de l'apparition de l'ordinateur individuel, le personal computer, le PC, la miniaturisation des composants électroniques, leur fabrication de masse débouche vers 77 sur des micro-ordinateurs compacts, ne pèsent que quelques kilos, tiennent sur une table, et relativement abordables. Ça coûte de 3 000 à 8 000 euros d'aujourd'hui. Et ça permet d'envisager d'avoir un ordinateur dans chaque maison et un ordinateur sur chaque bureau dans les entreprises. Alors pourquoi faire ? On ne sait pas trop. La publicité Atari, que vous voyez ici, suggère des jeux vidéo familiaux vaguement éducatifs. Les vraies utilisations de l'ordinateur personnel viendront plus tard, traitement de texte, tableur, accès à Internet. Mais une chose est claire, on rentre dans le computer age, l'âge de l'informatique, et c'est l'avenir évidemment. Du moins, c'est ce que le grand public entend à longueur d'éditoriaux dans la presse et d'interviews à la télévision, donc où des gens qui n'y connaissent rien tiennent de grands discours sur la révolution numérique qui va tout changer. C'est un peu comme ce qu'on entend aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et en plus, beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes en particulier, s'initient à la programmation des ordinateurs, en apprenant quelques rudiments du fameux langage basique de Sœur Marie. Alors ça peut être en jouant avec l'ordinateur à la maison, pour les plus fortunés, via les clubs informatiques qui fleurissent dans les lycées et les collèges, via des magazines spécialisés qui fleurissent dans les kiosques à journaux. Le kiosque à journaux était une grande source d'information avant Internet. Même la télévision s'y met, la BBC au Royaume-Uni diffuse un cours d'apprentissage de la programmation, à l'époque où l'offre jeunesse de la télévision française se composait de mauvais dessins animés japonais. Et puis, le personnage de l'informaticien entre dans la culture populaire. Alors, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, il y a trois images qui s'associent à l'informatique et qui sont toujours bien présentes aujourd'hui. La première, c'est le geek. Le geek, c'est le passionné, celui qui est obsédé par l'informatique ou par autre chose. Il y a des geeks de musique, par exemple. Tellement obsédé qu'il ne parle que de cela. Du coup, il est souvent mal à l'aise en société, parfois rejeté, souvent néglige souvent son apparence physique, parfois ses études, voire la santé, et vit dans une certaine marginalité. Alors, la seconde figure, c'est le hacker. Alors, aujourd'hui, ça veut dire pirate informatique, mais initialement, ça veut juste dire bidouilleur. Alors, pas n'importe quel bidouilleur, un bidouilleur virtuose qui maîtrise complètement l'outil informatique, lui fait faire ce qu'il veut. Alors, ça peut être faire le bien, poser Apollo 11 sur la Lune, par exemple. Ça peut être faire le futile, juste pour s'amuser, ou ça peut être faire le mal, le piratage informatique. Mais dans les trois cas, ça s'inscrit dans un fantasme de toute puissance. Toute puissance sur un monde minuscule, mais toute puissance quand même. Et alors, la troisième image d'épinal de l'informaticien des années 80, c'est l'entrepreneur dans son garage. Alors, toujours dans son garage, hein, jamais dans sa buanderie, pour prendre une autre pièce typique du pavillon américain. Donc, c'est quelqu'un qui, un jour, a une vision d'un produit ou d'un service qui va bouleverser l'industrie et le rendre immensément riche. Il arrête tout, en particulier ses études, et pour réaliser sa vision dans des conditions parfois précaires. Donc, le fantasme ici, c'est celui du self-made man, celui qui réussit sans rien devoir aux autres, juste par ses qualités personnelles. Alors évidemment, ces trois clichés sont fortement genrés. Bon, j'ai tourné toutes mes phrases au masculin, mais je suis sûr que même sans ça, des images d'hommes vous sont venues en tête pendant que je parlais. Et ces clichés genrés sont particulièrement influents sur les adolescents et préadolescents de l'époque, donc au moment de l'orientation scolaire et professionnelle, mais qui est aussi le moment de la construction personnelle. Et bien des garçons sont séduits par les aspects toute-puissance, les aspects réussite individuelle, et valorise le côté passionné, voire obsessionnel du geek. Alors que beaucoup de filles sont repoussées par le côté asocial du geek, le côté dérisoire du hacking et le côté solitaire de l'entrepreneur. Et les résultats ne se font pas attendre. On voit, dès le milieu des années 80, arriver un afflux d'étudiants en informatique attirés par la popularité du domaine et les bonnes perspectives professionnelles, mais ce sont très majoritairement des garçons qui affluent dans les cours d'informatique. Et du coup, la proportion d'étudiantes en informatique qui avait culminé à près de 40% en 1985 aux États-Unis, va décroître ensuite régulièrement pour arriver aux 20% d'aujourd'hui. Alors que dans les autres disciplines de sciences et d'ingénierie, la proportion des femmes étudiantes continue à augmenter pour arriver à peu près à parité dans les années 2000. Mais ce que ce diagramme ne montre pas bien, c'est que les femmes n'ont pas fui les études d'informatique en 1985. Leur nombre reste constant ou continue à augmenter légèrement. C'est juste qu'elles se retrouvent noyées, mises en minorité par un afflux massif d'hommes. Et c'est pour ça que je parle de masculinisation d'une discipline dans le titre de cet exposé, et pas la déféminisation, comme certains auteurs le font. Les femmes sont toujours là, simplement, elles sont moins visibles. Et cette masculinisation des études implique assez mécaniquement, au bout de quelques années, la masculinisation des métiers de l'informatique, et tout particulièrement des nouveaux métiers créés par l'avènement de l'ordinateur personnel dans les années 80, l'avènement de l'Internet dans les années 90, et même du métier plus traditionnel de programmeur informatique. Petit à petit, le cliché « les femmes sont douées pour programmer » s'efface, et se fait remplacer par le cliché « le génie logiciel, c'est comme le génie civil, c'est une affaire d'homme ». Alors, est-ce que cette masculinisation de l'informatique depuis les années 80 est inéluctable ? Alors, j'aimerais vous montrer que non, avec l'exemple de ce qui s'est passé à l'université Carnegie Mellon. Carnegie Mellon, CMU, situé à Pittsburgh aux États-Unis, c'est l'une des cinq meilleures formations en informatique au monde, d'après différents classements internationaux. Certains la mettent en première position. Et en 1995, la School of Computer Science tire la sonnette d'alarme. La proportion de femmes admises dans leur formation ne dépasse pas 7% depuis plusieurs années. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, ils vont mener une enquête sociologique poussée auprès de leurs étudiants, et surtout de leurs étudiantes, et la répéter plusieurs années de suite. Enquête documentée dans ce livre, Unlocking the Clubhouse, qui est tout à fait intéressant. Et suite à l'enquête, ils font un plan d'action avec des résultats spectaculaires. Donc ça, c'est la proportion de femmes admises à la School of Computer Science de Carnegie Mellon. Et donc, vous voyez, au début de l'étude, en 1995, on est à 7%, et les années précédentes, on oscille entre 5 et 10%. Et en 2000, le taux atteint 42%. Alors, je n'ai pas trop de chiffres entre 2000 et 2010. Donc, clairement, ils ont un petit peu perdu leur avantage. La proportion était retombée à 25%. Et de nouvelles mesures ont réussi à faire remonter le chiffre à 50%, la mythique parité, en 2018. Donc, je vous laisse méditer sur ce fait que l'une des toutes meilleures formations à l'informatique au monde atteint la parité homme-femme. Alors, notez aussi que ça ne s'est pas fait au détriment des hommes. Le nombre de garçons admis à CMU est à peu près constant depuis 90, lors d'une centaine. C'est le nombre de femmes qui est passé de 5 à 100. Et donc, c'est vraiment une féminisation et pas une démasculinisation de la formation. Alors, les mesures prises ont aussi amélioré le taux de rétention, si j'ose dire, des femmes. En 95, non seulement il ne rentrait que 7 femmes, mais au bout de 2 ans, 4 d'entre elles étaient parties ailleurs. Et alors que, donc, arrivé aux années 2000, le taux de rétention au bout de 2 ans est à peu près le même pour les hommes et les femmes, 90%. Alors, comment CMU a fait pour atteindre ces résultats? Alors, de manière générale, on peut identifier 3 grands leviers d'action. On peut agir sur l'admission des étudiants. À l'extrême, on peut mettre des quotas par genre. C'est ce qu'on faisait en France avec les écoles normales supérieures de jeunes filles, Sèvres et Fontenay, et les écoles normales supérieures de jeunes hommes, Ulm et Saint-Cloud. Les épreuves sont les mêmes, mais on fixe à l'avance le nombre de garçons et le nombre de filles qui seront admis. Point. Alors, c'est illégal aujourd'hui, c'est évidemment discriminatoire, mais il y a d'autres moyens plus subtils pour agir sur les critères d'admission et les rendre un peu moins genrés, comme on va le voir. On peut agir sur l'offre de cours. L'idée est de proposer des cours qui soient sur des sujets plus female-friendly, comme disent les Américains, plus susceptibles d'intéresser les étudiantes. Alors c'est délicat, ça suppose d'abord qu'il existe des sujets de cours roses et d'autres bleus, et qu'on peut composer un programme de cours globalement plus rose. Alors, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je vais quand même vous donner une anecdote personnelle. J'étais dans le jury de recrutement d'un professeur en informatique il y a quelques années. Le jury avait posé la même question à tous les candidats. Comment pouvons-nous augmenter la proportion de femmes dans nos formations en informatique? La plupart des candidats avaient répondu très honnêtement, je ne sais pas. Mais l'un d'entre eux avait dit, ah oui, je sais, j'ai une idée, les filles aiment bien le shopping, alors on pourrait, en projet de programmation, faire coller un site web de commerce électronique. Donc ça, c'est une tentative de repeindre en rose un cours existant, le projet de programmation, qui n'a pas convaincu le jury. Et le troisième levier, c'est d'agir plutôt sur les conditions de travail des étudiantes et leurs conditions d'études. Par exemple, un autre candidat à ce recrutement nous avait raconté que dans son université d'origine, lorsqu'ils ont 6 à 8 groupes de travaux dirigés pour un même cours, il propose à toutes les filles d'aller dans le même groupe. Comme ça, il y a une chance qu'elles vont participer toutes. Alors que si on les répartit sur tous les groupes, il est probable qu'elles ne prendront jamais la parole, celle-ci étant monopolisée par 2 ou 3 garçons hyperactifs. Donc ça, c'est un exemple où une petite dose de non-mixité pourrait aider. Et Nalini Antaraman parlera beaucoup plus de ça dans le prochain exposé. Et donc, très brièvement, la principale mesure prise à CMU, ça a été de supprimer à l'admission le prérequis d'avoir déjà une expérience de programmation. À l'époque, donc, c'était acquis soit en autodidacte, soit au club informatique du lycée, soit par certains cours optionnels, soit par des jobs d'été. Et d'un côté, l'étude de CMU a montré que cette expérience préalable n'était pas vraiment corrélée avec le succès des études en informatique. Ce n'est pas la même programmation qu'on fait en amateur et ensuite à l'université. Et de l'autre, cette expérience est très genrée. Dans les années 80-90, les ordinateurs à la maison finissent dans les chambres des garçons, comme beaucoup de jouets technologiques, et les clubs informatiques sont très masculins. Et même aujourd'hui encore, dans les lycées français, la spécialité numérique et sciences informatiques, proposée en première et en terminale, attire 85% de garçons. Et donc, les choix qu'on fait au moment du lycée ne doivent pas forcément forcer les choix qu'on fait à l'admission à l'université ensuite. Et c'est ce qu'a fait CMU en disant clairement que non, il n'y avait pas besoin d'expérience préalable de programmation. Après, ils ont fait plein d'autres choses. Par exemple, travailler sur les cours de remise à niveau, envisager jusqu'à 4 niveaux différents pour les étudiants et mettre des cours pour que, adaptés pour que tout le monde arrive à peu près au même niveau au bout de la première année. Des mesures pédagogiques d'assez bon sens, comme former les moniteurs, les teaching assistants aux questions de genre et de diversité, ou affecter les meilleurs enseignants aux cours signalés comme difficiles par les étudiantes, plus que par l'ensemble des étudiants. Varier les sujets et les méthodes d'enseignement, montrer pas juste des savoirs fondamentaux comme algorithmique et programmation, mais aussi des applications, un célèbre cours de robotique, spécialité de CMU. Pas mal de outreach, pas mal de relations publiques, notamment faire connaître l'initiative auprès des enseignants des lycées, ce qui aide les filles à s'orienter. Et puis des programmes d'animation de la communauté étudiante, comme par exemple marrainer les étudiantes de première et deuxième année par des étudiantes de troisième et quatrième année. Donc rien de vraiment extraordinaire, mais l'ensemble a donné des résultats remarquables. Et donc il est temps de conclure, avant que la présidente de session me fasse de très gros yeux. Je voudrais conclure en citant Isabelle Collet, donc une informaticienne, professeure en sciences de l'éducation, qui a beaucoup écrit sur la place des femmes en informatique. Et elle écrit « L'absence des femmes dans le monde digital n'est pas une fatalité. » On l'a vu aujourd'hui sur les premières décennies de l'histoire des mathématiques, où les femmes étaient tout sauf absentes. On l'a vu dans certaines formations d'élite, telles que celle de Carnegie Mellon. Et j'ai pas eu le temps d'en parler, mais si on sort de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, on voit des pays comme l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, où les femmes sont très présentes dans les études et dans les métiers de l'informatique. Et donc, il est temps, grand temps, de remettre en question ce que nous croyons être des fatalités dans la place des femmes dans les sciences informatiques et dans les sciences en général. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Xavier. C'était passionnant de voir un petit peu l'histoire. J'aurais peut-être une question. Tu n'as pas parlé d'intelligence artificielle. Est-ce que bientôt les femmes vont prendre le dessus ?
Alors, parmi les gens qui font l'intelligence artificielle, non. Je crois que ça sort du même vivier d'informaticiens, de mathématiciens, de physiciens qui snackent à 20% de femmes. Et en revanche, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer que l'intelligence artificielle elle-même a parfois plutôt tendance à renforcer les biais genrés qu'à aider à les corriger. Donc ça, c'est une de mes animations favorites. Donc c'est, on a demandé à Stable Diffusion de dessiner des visages de gens suivant différentes professions. Les noms sont donnés en anglais, donc les professions ne sont pas genrées. Et donc par exemple, pour un architecte, il y a 5% de femmes. Pour un... Attendez, là on est un peu de retard. Ça c'est laveur de vaisselle, bon, on est à peu près équilibre. Docteur, 7% de femmes. Alors que bon... etc. Donc on voit des biais genrés extraordinaires dans les images générées et raciaux aussi, hein, racisés également, et qui montrent qu'en fait ces techniques qui s'appuient sur des corpus, non seulement ne reflètent même pas la réalité d'aujourd'hui, il y a une majorité de femmes chez les jeunes médecins par exemple, reflètent en fait une espèce de réalité qu'on trouve sur internet et qui date des années 60. Donc ça fait un peu peur. Avec des intelligences artificielles comme ça, on n'a plus besoin de beaufries naturelles, en fait.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir maintenant.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.